Et maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies. Vous avez semé beaucoup et vous rentrez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais vous n'en avez pas assez. Vous vêtez, mais personne n'a chaud. Celui qui travaille pour des gages travaille pour les mettre dans une bourse trouée. Ainsi dit l'Éternel des armées. Considérez bien vos voies. Montez à la montagne, apportez du bois, et bâtissez la maison. Et j'y prendrai plaisir, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous attendiez à beaucoup, et voici, je n'ai été que peu. Et vous l'avez apporté à la maison, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est dévastée, et vous courez chacun à sa maison. C'est pourquoi au-dessus de vous les cieux ont reçu la rosée, et la terre a reçu son produit. Et j'ai appelé une sécheresse sur la terre, et sur les montagnes, et sur le blé, et sur le mousse, et sur l'huile, et sur ce que le sol rapporte, et sur les hommes, et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Et Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et tout le reste du peuple, écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, prophète, selon la mission qui lui avait été donnée, que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple craignit l'Éternel. Et Agé, le messager de l'Éternel, parla au peuple par le message de l'Éternel, disant, je suis avec vous, dit l'Éternel. Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et travaillèrent à la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, en la seconde année du roi Darius. Au 7e mois, le 21e jour du mois, la parole de l'Éternel vint par Agé, le prophète, disant, parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple, disant, qui est de reste parmi vous qui a vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? N'est-ce pas comme rien à vos yeux? Mais maintenant, sois fort, Zorobabel, dit l'Éternel, et sois fort, Josué, fils de Jotsadak, grand sacrificateur, et soyez forts, vous, tout le peuple du pays de l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. La parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous, lorsque vous sortiez d'Égypte, et mon esprit demeure au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi dit l'Éternel des armées, encore une fois, ce sera dans peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et la terre sèche, et j'ébranlerai toutes les nations. Et l'objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées, et dans ce lieu je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées.
Alors, ce matin, on relevait quelques points d'une grande importance en considérant les premiers versets de cette prophétie. On nous prie de faire un résumé, si possible bref, un résumé de ce qui a été dit ce matin à l'intention de ceux qui viennent pour la première fois maintenant. La prophétie d'Agé se divise en quatre oracles. Le premier et le troisième sont des messages confiés à Agé, des messages où la répréhension et l'avertissement jouent un rôle prédominant. Les deuxième et quatrième messages sont des messages remplis de promesses et de certitude de la part de Dieu à l'égard de son peuple. Des promesses qui ne sont pas seulement pour le temps où vivait le résidu de son peuple, mais qui vont au-delà jusqu'au temps glorieux de ce que nous appelons communément le millénium. Le premier oracle a été prononcé au sixième mois, le premier jour. Et l'on voit, d'après la fin du premier chapitre, qu'au bout de trois semaines, le peuple a reçu les paroles du prophète, il a craint Dieu et il s'est mis au travail. Le deuxième oracle, nous l'avons au chapitre deuxième, il a été prononcé un peu plus tard, au bout d'un mois et trois semaines, au septième mois, le 21e jour. Le troisième oracle a été prononcé encore deux mois plus tard, le 9e mois, au 24e jour, et le quatrième a été prononcé le même jour, ce même 24e jour du 9e mois, de telle sorte que l'activité prophétique d'Agé nous est consignée dans le laps de temps de trois mois et demi, un petit peu plus. Deuxième point, d'Agé, il ne nous en est pas beaucoup parlé dans la parole. Nous avons relevé ce matin, à part notre prophétie, les deux passages d'Esdras 5 et 6. En Esdras 5, il nous est dit qu'Agé et Zacharie ont prophétisé, qu'ensuite ils assistaient les chefs du peuple dans ce travail de reconstruction de la maison. Et puis, au chapitre 6, nous avons le résultat de l'activité prophétique de ces deux serviteurs, c'est que les anciens d'entre le peuple prospérèrent. Une prospérité a marqué le résultat, les effets de l'activité prophétique d'Agé et de Zacharie. Troisième point, quand est-ce qu'Agé a prophétisé? C'est en la seconde année de Darius. Il n'est pas question ici de la mention d'un roi de Juda, encore moins de la mention d'un roi d'Israël. L'autorité a été confiée aux gentils. Elle a été retirée de la main des enfants d'Israël. Et c'est un Darius qui les fait mention, ce qui nous montre l'état d'asservissement dans lequel se trouvait le peuple d'Israël à ce moment-là, asservi au second grand monarque des gentils, c'est-à-dire l'Empire Médo-Perse. De même, quand le Seigneur Jésus est sur la terre, et de même, quand Jean le baptiseur, un autre prophète, le plus grand des prophètes, vient, eh bien, que nous dit l'évangéliste Luc, en la 15e année de Tibère Auguste, c'est l'empereur romain qui est nommé, non pas un éventuel roi de Juda ou d'Israël. Différentes mentions qui dénotent l'état d'assujettissement dans lequel se trouvait le peuple d'Israël par rapport aux gentils. Et alors, quel est donc le sujet de ce premier message? Quatrième point, l'Esprit de Dieu, par le moyen d'Agé, dénonce l'égoïsme qui caractérisait les enfants d'Israël à ce moment-là. On pensait à ses propres affaires avant tout, à ses propres aises, on était occupé de soi-même, vous courez chacun à sa maison, et on négligeait les intérêts de Dieu, c'est-à-dire sa maison. On pouvait passer avec indifférence en présence de la dévastation de cette maison. Ma maison est dévastée, et cela ne vous préoccupe pas. Pendant que vous vous occupez excessivement de vos maisons, qui sont les maisons lambrissées. D'où l'appel du prophète. Et nous terminons ce résumé sur cette mention. Considérez bien vos voies. Ce verbe, cet impératif, si caractéristique de la prophétie d'Agée, est un verbe sur lequel tous nos frères qui ont parlé du prophète d'Agée ont insisté. Deux fois, nous avons ce « considérez bien vos voies » dans le chapitre 1er et trois fois dans le chapitre 2. Trois fois, le prophète se reprend pour dire « considérez bien, considérez, considérez vos voies ». Ou comme dit la note, « mettez vos cœurs à vos voies ». Que dans votre cœur, que dans le plus profond de votre cœur, vous pensez à vos voies, ces voies que vous suivez et dont vous voyez l'aboutissement et dont nous avons tout le détail dans le premier alinéa de ce chapitre. Il n'était pas béni. En un mot, il n'y avait pas de bénédiction. Dieu ne pouvait pas bénir les enfants de son peuple tandis qu'ils marchaient dans leur propre voie. Eh bien, considérez vos voies et considérez l'aboutissement de ces voies. Considérez bien. Et cette exhortation, faut-il le dire, chers amis, s'adresse à nous-mêmes, à chacun, à chacune d'entre nous. L'Esprit de Dieu s'adresse et nous dit, considérez, considère bien tes voies. Considère, arrête-toi un moment et considère les voies que tu suis et pense à la maison de Dieu. Pense au témoignage du Seigneur et que tes affections et tes intérêts reviennent, soient davantage pour cette maison, pour ce que le Seigneur a particulièrement à cœur sur cette terre, ce qui le réjouit par-dessus tout, c'est-à-dire en assemblée. Et ainsi nous sommes, par le moyen de ce livre du prophète Agée, exhortés, chers amis, à penser beaucoup à l'assemblée, à aimer l'assemblée, à travailler, à œuvrer pour le bien de l'assemblée et marcher ainsi, tant soit peu, sur les traces d'un autre serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, qui pouvait parler, selon le passage cité déjà ce matin, de ce qui le tenait à siéger tous les jours, c'est-à-dire la sollicitude pour les assemblées de Dieu. Considérons donc, considérez bien vos voies. C'est le désir des frères, nous disons en terminant, que nous passions, je ne veux pas dire rapidement, mais sans nous attarder trop sur les versets qui restent du premier alinéa, et que nous nous arrêtions par contre un peu sur le deuxième alinéa, c'est-à-dire sur le résultat produit dans le cœur des enfants d'Israël à l'ouïe des paroles du prophète Agée.
Il savait bien ce que son peuple disait. Et il le sait bien ce que son peuple dit. Et il sait aussi bien ce que son peuple pense. Non seulement Dieu sait ce que son peuple fait ou ne fait pas, ce qu'il dit ou ne dit pas, mais ce qu'il pense. Et personne ne peut empêcher Dieu de sonder le cœur de chacun des siens, heureusement. Aucun frère ou sœur exercé ne trouve que soit une chose fâcheuse, au contraire. Il y en est un devant qui toutes choses sont nues et découvertes. Et Dieu ne dit pas tout ce qu'il voit, il en tient compte. il n'écrit pas tout ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il ne l'écrit pas pour le temps, mais il l'écrit pour un certain jour, où tout ce qui aura été fait, qui n'aura pas été fait, sera manifesté. La Bible est complète pour l'emploi, pour l'usage auquel Dieu l'a destiné. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'ait pas mal de choses à ajouter quant aux déclarations relatives à son peuple chrétien comme les autres. Cela sera tout manifesté un jour. Nous sommes dans une condition remarquablement semblable à celle de ce peuple des païens. Nos préoccupations terrestres, nous sommes exhortés à considérer nos voies, c'est cela, entre autres, nos préoccupations terrestres nous submerge aujourd'hui. C'est une constatation universelle. Et là gît la cause de beaucoup de défaillances qui se traduisent par un fléchissement de la spiritualité. Un fléchissement dans ce que nous disions ce matin, tout cela est à base de tout, n'est-ce pas? De la vie de communion avec le Père. Et quand cette vie intérieure, la flamme intérieure baisse, on peut sauver les apparences pendant un temps, inévitablement, le déclin se manifeste au dehors. On nous a souligné cet ordre impératif 5 fois. Mais nous serons plus responsables après cette lecture ou cette étude que nous ne l'étions avant. Nous faisons valoir les nécessités de la vie, les devoirs de la vie, sans doute. Reste à savoir si, dans quelle mesure, chacun de nous ne doit pas être amené par ces considérations à voir s'il ne s'est pas engagé lui-même en cela d'une façon irréfléchie. Et je peux dire, en rendant un témoignage qui honore nos devanciers, que ils ont fait le contraire de ce que nous faisons tous, plus ou moins, je le reconnais pour mon compte, mais ils ont fait le contraire. Nous commençons notre christianisme avec un ensemble moyen d'exercices, et puis nous nous lassons d'une marche un peu exercée, d'un chemin qui nous paraît étroit, alors que tous les chemins de nos jours s'élargissent. Et voilà que nous nous mettons à imiter ce qui nous entoure. Et nous complétons nos bagages. Et notre vie spirituelle s'étiole. Lequel d'entre nous ne trouve pas que c'est difficile de passer 2 heures en communion avec le Seigneur, hein? Cela ne se fait pas comme ça. Et que chacun de nous se dise de quelle manière il a laissé entrer dans ses voies, auxquelles, évidemment, l'œil de l'homme n'a rien à redire, il a laissé entrer dans ses voies ce qui peu à peu ravage sa vie chrétienne. Il sera peut-être complimenté par ailleurs des succès qu'il remporte. Mais s'il écoute la voix du Seigneur dans sa conscience et dans son cœur, il trouvera une note différente. C'est pour notre bien tous, voilà ce qui est important. C'est la pratique de la vie chrétienne. Eh bien, je reviens à ce que disait tout à l'heure nos conducteurs, que nous avons tout à fait le droit. Et j'ajoute le devoir dont nous avons le droit et le devoir d'honorer la mémoire. Plus d'un d'entre eux participe avec de grands bagages et de riches bagages, nous pouvons le dire, et nous n'avons qu'à nous en quérir, ayant rencontré le Seigneur, ayant été appelé non seulement pour le ciel, pour plus tard, mais ayant été appelés pour leur carrière ici-bas et leur service et leur témoignage, ont abandonné des bagages que nous considérerions de la plus haute valeur. Et auxquelles valeurs, à laquelle, hélas, nous sommes en danger de consacrer notre vie. Mais je pourrais, nous pourrions, chacun qui lit un peu et qui cherche un peu, même en dehors du témoignage et avant le témoignage, nous trouverions dans l'histoire de cette chère Église du Seigneur, et au temps même où la vérité générale de l'Église n'était pas du tout connue, et que chacun faisait son chemin comme le Seigneur le permettait, souvent d'une façon très isolée et sans des vues exactes sur ce qu'est l'Église et ce qu'elle dit dû être, nous trouverions des exemples de chrétiens individuels dans ce que nous appelons la chrétienté et les systèmes qui nous donneraient les plus fortes leçons. Considérez bien vos voies, vous faites beaucoup, vous récoltez peu, vous vous occupez beaucoup, la moisson est maigre, vous avez soif. Dans cette vie tumultueuse, cette vie affairée, cette existence de nos jours, c'est assez rare de trouver un frère ou une sœur qui soit content, qui soit heureux. Heureux avec Dieu. Quelqu'un dont on découvre qu'il a du temps à perdre avec le Seigneur et avec le Père, et à la recherche intérieure des choses qui ne se voient pas. Pour beaucoup, pour les gens du monde, c'est une folie. Mais hélas, c'est presque une folie pour pas mal de personnes. Considérez bien vos voies. Ce ne sont pas des préceptes moraux qui nous entraîneront dans ce chemin-là. Jamais. Ce qui nous entraîne, c'est le travail de Dieu dans notre cœur et notre conscience. Le travail de la parole et du Saint-Esprit, ce que nous voyons là, ils se sont réveillés et il faut absolument une puissance divine pour nous donner de voir et nous faire changer. Jamais par un raisonnement, vous ne convaincrez votre frère qu'il vaut mieux qu'il abandonne ceci ou cela dans ce qu'il recherche et ce qu'il aime ou de sa fortune pour aimer le Seigneur. Jamais. Vous ne convaincrez pas. Peut-être qu'il vous écoutera, plus ou moins, mais il faut, pour que cela tienne, il faut une puissance qui est exclusivement divine. Et tout le travail et toute la question se résout dans le cœur de chacun, pas ailleurs. Considérez bien vos voix. Et alors, j'entends un peu ce qu'on disait ce matin, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, et les frères et les sœurs, nous sommes responsables de chercher et de trouver pour nous-mêmes le Seigneur dans notre vie de tous les jours sans rien dire à personne et ensuite de servir, d'aider à d'autres et leur faire voir que ce n'est pas vrai qu'on est plus heureux en marchant, en cherchant ses propres intérêts. Ça n'est pas vrai, là, ça n'est pas vrai. On est beaucoup plus heureux en cherchant les intérêts du Seigneur. Est-ce que nous sommes des témoins un peu vivants de ce bonheur d'une qualité incomparable et d'une puissance incomparable? Je lisais juste hier, je crois, la plume d'un de notre frère, serviteur particulier, que le Seigneur a suscité, ceci, à peu près ceci. Si vous êtes heureux avec le Seigneur, si votre joie est grande en Christ, que c'est un témoignage même à l'égard des inconvertis. C'est si rare dans ce monde de trouver un homme vraiment heureux et dans des conditions qui extérieurement ne font envie à personne. Ces serviteurs du siècle dernier, vous savez, ils vivaient dans la pauvreté, la peine, les voyages, les déplacements, le confort inexistant. Leur vie, consécration au Seigneur et à son assemblée. Il ne faut pas croire que ce travail de géant que le Seigneur a fait faire par leurs moyens, il l'a fait faire à des gens qui étaient des amateurs. C'est toujours vrai. Et d'ailleurs, je suis bien sûr d'ailleurs, ils l'ont dit, et c'est vrai. Ces chers frères, des sœurs, il y en avait quelques-unes qui étaient d'une trempe pareille, et peut-être beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas, sûrement même, n'est-ce pas? Car c'est cela, des témoins et un témoignage. Ils le demandaient pour leur salaire, de cette vie de labeur et de renoncement. Ils ne demandaient qu'une chose, que le Seigneur soit avec eux et remplisse leur cœur. C'était tout ce qu'ils demandaient. Et que les brebis du Seigneur soient engagées, chose que facilitait la valeur d'exemple de cette qualité-là, que les brebis du Seigneur soient engagées à la suite, non pas des frères, de ses frères, mais du Seigneur lui-même. Je termine ces remarques en disant encore à propos de la maison, nous n'inventons rien, n'est-ce pas? Israël avait une maison de pierre, mais il y a la maison chrétienne, un édifice spirituel, les pierres sont des pierres vivantes, et rappelons ce passage, n'est-ce pas? Comment il faut te conduire dans la maison de Dieu qui est l'assemblée, la colonne et le soutien de la vérité. Un homme n'est jamais la vérité. Jamais. Le témoin, la colonne et soutien de la vérité. Deux chrétiens ne peuvent pas être colonne et soutien de la vérité. Dix frères qui forment une œuvre à eux ne seront jamais colonne et soutien de la vérité. L'assemblée, c'est-à-dire un groupe de chrétiens édifiés sur le terrain de la vérité, scripturaire face à l'assemblée, est colonne et soutien de la vérité. Seulement la lecture de deux passages qui, de la part du Seigneur et l'autorité de sa parole, imprime à nos cœurs toute la solennité de ce que nous venons d'entendre. Le premier, c'est dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3. On sait que lorsque le prophète parle en des termes saisissants, il avait pris sur lui-même l'état moral de cette ville de Jérusalem, de ce peuple et sur lequel s'appesantissait le gouvernement de Dieu. Et au verset 40, il exprime ceci: recherchons nos voies et scrutons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu dans le ciel. Nous avons désobéi, nous avons été rebelles et tu n'as pas pardonné. C'est plus ici, ce me semble, que l'expression « considérez bien vos voies ». Il y a l'action scrupuleuse dans le sens correct, chrétien de ce mot, l'action honnête de la recherche de ce qui constitue nos voies et nos moyens. Autrement dit, aller jusqu'au fond même, jusqu'à ce que sont même les mobiles qui nous font agir. Recherchons nos voies et scrutons-les, et retournons jusqu'à l'Éternel. Nous n'avons pas ici une macération morale sans suite, un cilice que nous prendrions pour nous flageller ou nous faire souffrir, nous donnant quelques droits à nous présenter comme ceux qui souffrent et comme ceux qui tentent de mettre aux aspirations, aux désirs de leur propre chair, des bornes et des limites. Mais nous avons le fait que l'âme, que la parole de Dieu a sondée, retourne à l'Éternel, reprend le chemin de la bénédiction. Élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu dans les cieux. C'est l'imploration, c'est la supplication, c'est aussi l'expression d'un état de choses qu'on a jugé et jugé sous le regard de Dieu. L'autre verset, c'est à la fin du psaume 139. Un autre côté du sujet, plus élevé, parce que l'âme se place dans la lumière même de Dieu. Savons quelle était la parole du sage. Connais-toi toi-même. Mais nous avons ici la parole du chrétien, du croyant, qui se place sous le regard de Dieu et qui, avec la pensée qu'il sondera tout et qu'il mettra tout en lumière, s'exprime à un Dieu connu en lui disant, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle. » Là, nous sommes vraiment à la lumière du Nouveau Testament, mes chers amis. Parce que si nous allons, et encore ce passage que nous connaissons tous, que nous pourrions tous citer de mémoire, mais qu'il nous faut chercher ensemble dans la parole, le contact visuel, le fait que nous nous approchons d'elle pour en prendre connaissance est toujours bienfaisant. Chapitre 4 des Hébreux, au verset 12. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Le sage disait, « Connais-toi toi-même, autrement dit, ne t'élève pas plus haut que ce que ton intelligence peut percevoir. » Tout prêt à jeter le voile des circonstances atténuantes sur des chemins où on sait bien qu'on a mérité la jonction du même prophète Jérémie. Regarde tes voies dans la vallée, ânesse sauvage qui va çà et là croisant des chevaux. Mais ici nous avons l'âme qui met en pratique la première des grandes ressources de Dieu pour que nous arrivions dans le repos de Dieu. Verset 12. La parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur, et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vois et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle. Bien, mes chers amis, c'est une grâce quand le Père use à notre endroit de cette forme de discipline intérieure, quand il est là pour nous montrer dans le secret du cœur ce qui ne va pas, ce que nous ne soupçonnions peut-être pas, ce sur quoi nous étions disposés à passer avec légèreté. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Voilà les mobiles jugés. Et toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Eh bien, quand le peuple disait « Le temps n'est pas venu »,
le temps de la maison de l'Éternel pour la bâtir. Il y avait des années qu'il se reposait, ou plus exactement qu'il courait après ses propres intérêts, et certains lambrissaient leur maison, et la maison de Dieu était en ruine. Nous comprenons bien, il nous faut toujours y revenir, que nous avons ces choses-là sur un plan spirituel, et que pour nous, à qui la parole de Dieu maintenant s'adresse, il s'agit pour nous de savoir quel prix ont pour nous les intérêts mêmes du Seigneur. Où sont-ils ici-bas? Eh bien, ils sont dans l'assemblée de Dieu qui s'est acquise au prix du sang de son propre Fils. Voilà où sont les intérêts de Dieu sur la terre. Que ce ne soit pas un élan de fraternité, de bienveillance, de condescendance qui nous rapproche d'un frère ou d'une sœur pour lui témoigner de l'affection, ce pourrait être de la simple charité au sens où l'entend ce monde, mais que tous ceux qui sont avec nous, selon la grâce de Dieu, les membres du corps du Christ, tous ceux qui avec nous sont des pierres vivantes, tirées de la carrière de ce monde, participant à la nature du fondement qui est Jésus-Christ, et qui ont été ajoutés dans cette maison spirituelle, ce temple saint, qui croit pour être une habitation de Dieu par l'Esprit, que tout cela, mes chers amis, nous nous sentions liés à eux par les liens mêmes du Saint-Esprit et par la même vie qui est en eux comme elle est en nous. Alors, nous serons épargnés de toute pensée de supériorité et épargnés de toute pensée de suffisance et épargnés de toute pensée d'indifférence. Rien de ce qui touche l'Assemblée de Dieu, et donc rien de ce qui nous touche dans nos frères et dans nos sœurs, ne saurait nous laisser indifférents. La marche chrétienne, la marche de l'Assemblée dans ce monde, elle est faite de ces sentiments qui sont les sentiments mêmes du Christ. Qu'il y ait donc en vous, dit l'apôtre, cette pensée qui a été dans le Christ Jésus. Le voilà toujours proposé à nous, à nos âmes, comme le modèle. Et quand le psalmiste disait « Conduis-moi dans la voie éternelle », il avait comme la préscience du fait que quelqu'un viendrait et dirait « Moi, je suis la résurrection et la vie. Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. » C'était l'aspiration d'une âme vivifiée. Si elle n'avait que des acomptes sur l'œuvre de la croix et qui s'élevait en haut en disant au Seigneur « Vois, ô Dieu, et regarde. » S'il y a en moi quelques voix de chagrin, cela peut échapper à ma perception. Et pourtant, ce sont des voix qui tendraient à la mort. Notre âme se chagrine, elle est sans joie, elle est sans véritable paix, elle ne connaît pas le bonheur, comme on nous vient de le dire, tant que nous sommes occupés de nos propres intérêts. Mais nos âmes éprouvent cette prospérité qui a été soulignée parmi ces anciens d'Israël qui s'étaient mis à l'œuvre de bonne volonté, de plein cœur, avec le secours d'un Dieu qui était le Dieu des cieux et de la terre, qui mettait à leur disposition dans ce qui était un relatif dénuement par rapport à toutes les richesses que Salomon avait à sa disposition, les richesses que David avec persévérance avait rassemblées, sur l'égard de quoi il pouvait dire dans le jour où il préfaçait la dédicace de la maison, voyant autour de lui rassembler tant de richesses, ce que nous avons reçu de ta main, nous te le donnons. Ah, que Dieu nous accorde, mes chers amis, de considérer nos voies, de les scruter, de revenir à l'Éternel. Et chacun pour nous-mêmes, dans la simplicité de cœur, qui ne souhaite rien que d'être sondé, chacun pour nous-mêmes, nous placer sous l'influence sanctifiante, et s'il le faut, vous présentez, pour ainsi dire, à la lame de l'épée, aiguë à deux tranchants, qui n'épargne rien en nous de ce qui nous empêchait de jouir vraiment de la paix du Seigneur et de marcher vraiment de cœur dans son chemin. Pour l'Éternel, c'était une chose douloureuse que d'entendre dire « Le temps n'est pas venu, le temps de la maison de l'Éternel pour la bâtir. » Pourquoi ? Il nous faut poser les questions. Déjà, la réponse est dans nos cœurs. Pourquoi si peu de conversions ? Comment n'ont connu ceux dont on vient de nous parler, quand la parole de Dieu était puissante ? Pourquoi si peu de manifestations visibles, comme tangibles, de l'opération de la grâce dans nos assemblées ? Nous ne voulons pas battre en vain notre culte, mais ce que nous désirons, c'est que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne de racheter le temps. Rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Et nous le dirigerons chacun pour nous-mêmes. La vie de Dieu qui est en nous, l'Esprit du Christ qui est en nous, nous incite à cela. Ah, ne faisons pas la sourde oreille. L'Esprit de Zorobabel, l'Esprit de Jéchua et l'Esprit de tout le peuple a compris toute la solennité de l'avertissement. Et comme on est heureux d'arriver dans ce dernier paragraphe et d'entendre la parole même sur laquelle le Seigneur a quitté les siens en Matthieu, quand il leur a ordonné de faire disciples toutes les nations, quand il les a comme par avance, car c'est une parole pour résidus juifs, chargés de la mission de l'évangile éternel et de l'évangile du royaume, sachant qu'il les envoyait à la mort, ces témoins-là, que dit-il ? Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle.
J'ai une ou deux remarques à la suite de ce qui vient d'être dit. Les intérêts de Christ sont bons sans l'Église. Si des chrétiens et des frères n'ont qu'un nom devant eux que des conversions, ils ne sont pas dans l'esprit qui répond à la recherche des vrais intérêts de Christ. Il y a beaucoup d'évangélistes ou de serviteurs sans être proprement évangélistes qui peuvent avoir des conversions sans savoir du tout ce que c'est que l'Église selon la pensée de Dieu. Dieu bénit la foi partout. Qu'est-ce que cela prouve ? Le désordre. Il y a 20 siècles qu'il y a du désordre. Et le Seigneur permet que nous en souffrions, il faut que nous supportions les infidélités de son Église et jusqu'au bout et de plus en plus. Mais c'est un autre sujet. Un frère qui n'a pas devant lui le service en rapport avec les intérêts du service est infidèle. Un chrétien de n'importe quel milieu qui n'a pas cette lumière-là et qui n'a pas devant lui les intérêts du Seigneur quant à l'Église n'est pas infidèle, il ne sait pas. Mais justement, le témoignage du Seigneur était là pour maintenir la pensée initiale et fondamentale du Seigneur quant à l'Église. C'est ce qui donne une immense valeur au témoignage qui est apparu au siècle dernier et nous donne une immense responsabilité. Rien ne peut remplacer cela. Aucune initiative. Tous les chrétiens du monde se mettraient-ils ensemble sur un terrain qui n'est pas celui de l'Église ? Dieu souffrira dessus. Il bénira la foi, mais quant au groupement lui-même, il souffre dessus. C'est la vérité, et ce qui n'est pas la vérité, eh bien, c'est de l'erreur. C'est pourquoi, si des frères ont une tendance de détourner des âmes de celui qui est le seul centre, le Seigneur aime son Église. Il n'est pas dit qu'il l'a nourrie dans le passé, il le fait continuellement. Il nourrit, il chérit son assemblée, il l'aime, il en prend soin. Ah, il faut que ce soit lui pour continuer à le faire. Mais celui qui a les intérêts du Seigneur entre dans cette pensée permanente de Christ.
qui bâtit son Église, la soigne, la sanctifie, la nourrit, la chérit. Et un frère qui est donc dans cette pensée, un chrétien même en général, quand il a une conversion, il ne dit pas seulement « il y a une âme qui est au Seigneur, une âme sauvée ». Il dit « voilà une personne qui est un membre de Christ ». Et il aura à cœur, s'il connaît la vérité, de donner au Seigneur la joie de voir venir, dans ce qui est l'expression de son Église, ce membre nouveau. Le travail n'est pas complet pour quelqu'un qui est enseigné, qui a été instruit, sans que l'âme qui a été instruite, amenée au Seigneur, soit amenée sur le terrain où s'exprime le désir du Seigneur. En même temps, donc, toutes les activités qui sont plus ou moins personnelles sont en opposition avec les intérêts du Seigneur. Que le Seigneur nous garde de tout ce qui est personnel. Personnel, je suis le centre. Plus ou moins indirect. Mais c'est moi qui suis le centre. Et Christ, où est-il ? Eh bien, nulle part. Tout à fait en arrière. C'est de l'ordre, cela. C'est anti ce qui se fait depuis des siècles dans la chrétienté. Mais que chacun de nous pense à cela, je ne pensais même pas aussi long. J'ai une deuxième pensée. Les intérêts du Seigneur, ce sont l'Église. Pour le Seigneur, tous les chrétiens du monde font partie de cette Église. Ils en font partie. Un de ces jours, des chrétiens nous déclaraient qu'à leur avis, mieux placé que moi pour le dire, qu'à leur avis, le pape qui avait précédé l'actuel était un chrétien. Je n'ai rien pour contester cela, le moins du monde, ni même je n'éprouverais pas le besoin de faire des recherches. Je n'ai pas contesté, je n'étais pas seul d'ailleurs à écouter cela. Mais alors, comme il est bien sûr que si c'était vrai, et si cela a été vrai, et si c'est vrai pour d'autres personnes plus ou moins engagées dans les hiérarchies religieuses chrétiennes, si c'est ainsi vrai, le Seigneur aime ces personnes comme il aime le meilleur des frères, comme il aime le plus excellent des frères. Eh bien, nous l'aimons pareillement. Ces personnes-là, nous les aimons de tout notre cœur, sans la moindre réserve. Est-ce que pour cela, nous ouvrons, en supposant encore une fois que nous soyons éclairés quant à la pensée du Seigneur et à son Église et à ses intérêts, ouvrons-nous sans réserve et nos bras et nos cœurs à ces personnes? Non, pas du tout. Et les intérêts du Seigneur dans un temps de ruine revêtent une forme un peu plus compliquée qu'au commencement, n'est-ce pas? Parce que d'une part, nous devons avoir un cœur aussi large que le sien et embrasser du même amour tous ceux que lui embrassent, sinon nous sommes des sectaires, et c'est-à-dire que nous sommes mus par des pensées autres que les siennes, notre cœur, le moi, agit d'une manière ou d'une autre, mais d'autre part, dans les temps de ruine, et il y a longtemps que c'est la ruine, et dans les temps de la ruine du témoignage, nous avons à nous souvenir, le Seigneur vient à notre aide pour nous dire, je connais ceux qui sont miens. Vous n'en connaissez pas beaucoup, je les connais tous. Cela sous-entend que nous ne pouvons pas prétendre les connaître tous. Et je suppose que pas un frère ni un chrétien ne prétendrait désigner sûrement tous les chrétiens, même d'un quartier de cette ville. Personne ne pourrait le faire. Mais alors, pour satisfaire à la gloire du Seigneur, et répondre aux soucis des intérêts du Seigneur quant à son Église, nous avons cette injonction qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Le cœur large comme le sien et le sentier aussi étroit que le sien. Et alors, dans un témoignage qui est l'expression de l'Église du Seigneur, il y a cette largeur du cœur qui doit animer les frères et les sœurs, et en même temps cette fidélité, cette vigilance à l'égard de tout ce qui est mal moral et mal doctrinal, pour que ce qui porte le nom d'Église du Seigneur en soi ne soit pas affecté par cela. Le cœur large et le mal jugé et éloigné, tenu du côté, et même par conséquent, cela entraîne inévitablement le fait que l'on tient du côté des personnes, parce que le mal n'est pas une abstraction, le mal est toujours attaché à des personnes. Se séparer du mal, cela veut dire toujours, d'une manière ou d'une autre, se séparer de certaines personnes, n'est-ce pas, chrétiennes. Se séparer du mal. Et je termine cette remarque trop longue en disant encore cette jolie et forte formule d'un serviteur du siècle dernier, ces pionniers par lesquels le témoignage a revu le jour, c'est les deux ou rien.
Donc une exhortation, un appel qui est adressé par l'Éternel aux enfants de son peuple. Montez à la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison, et j'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit l'Éternel. On voit dans ce premier alinéa combien la maison, sa maison, le lieu de sa demeure, tenait au cœur de l'Éternel. La prophétie commence, pour ainsi dire, par la mention de sa maison qui est dévastée. Et le cœur de l'Éternel est... on le voit d'après ce premier alinéa, particulièrement sensible à une telle vision, ma maison qui est dévastée. Nous avons vu dans la suite les constatations que le peuple peut faire en voyant qu'il n'est pas béni dans son travail et dans ses efforts de la part de l'Éternel. Alors, l'Éternel de dire, par le moyen de son serviteur, montez à la montagne, première chose. Cela, chers amis, s'occuper de l'Assemblée, avoir à cœur les intérêts de l'Assemblée, et commencer par l'Assemblée locale, cela va sans dire, cela, chers amis, nécessite un effort, nécessite de l'énergie. Le peuple aurait peut-être préféré rester dans la plaine. Monter à la montagne, il faut la gravir. Cela nécessite déjà un premier effort. On aurait peut-être préféré rester dans la plaine. Ensuite, apporter du bois, c'est pas spécialement léger. Voilà encore un autre effort qui est requis de la part des enfants du peuple d'Israël. Apporter du bois. Et puis, troisièmement, bâtissez la maison. Et alors, si vous faites cela, dit l'Éternel, alors je serai glorifié. J'y prendrai plaisir. Vous aurez toute mon approbation. Et je serai glorifié. Au temps d'Israël, il s'agissait des nations. Je serai glorifié aux yeux des nations environnantes. Ah, chers amis, qu'est-ce qui réjouit le cœur du Seigneur? Et qu'est-ce qui honore le Seigneur? Qu'est-ce qu'il glorifie plus que le fait de voir ses rachetés et être aux intérêts de ce qui est sa maison, l'Assemblée, cette Assemblée du Dieu vivant dont on a parlé tout à l'heure? Mais, chers amis, on voit Combien cette pensée de la maison dévastée tient au cœur de l'Éternel, et l'Éternel revient encore une fois sur cette pensée de ma maison dévastée. Vous pensiez travailler, et travaillant beaucoup, vous vous attendiez à beaucoup, et voilà, ce n'a été que peu de choses. Pourquoi, dit l'Éternel? À cause de ma maison qui est dévastée. Le prophète revient de la part de Dieu sur cette pensée, que sa maison est dévastée. Montez donc à la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. Et la parole a été écoutée, la parole a été reçue, et c'est ce que nous avons donc dans ce deuxième alinéa. Et Zorobabel, fils de Shealtiel, et Jésua, fils de Josadac, le grand sacrificateur et tout le reste du peuple, écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu. On nous a parlé tout à l'heure du seul centre de nos affections, de ce qui doit être, de celui qui doit être le seul centre de nos affections et le seul but de nos aspirations et de nos activités diverses. C'est le Seigneur. Avons-nous remarqué dans ce dernier alinéa combien le nom de l'Éternel revient souvent? Pas moins de 8 fois dans 4 versets, 2 fois par verset. L'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Presque, j'exagère un petit peu, mais presque à toutes les lignes, il nous semble voir ce nom de l'Éternel. Eh bien, nous avons vu, ils écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Il est parlé ensuite de la mission qui avait été donnée par l'Éternel à Agé. Et le peuple craignit l'Éternel. Et Agé est appelé le messager de l'Éternel. Et puis voici cette promesse. Cette assurance infiniment consolante est valable pour tous les temps. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Il vaut la peine, chers amis, d'écouter l'appel que le Seigneur nous adresse en ce moment par le moyen de son serviteur, de son messager. Il vaut la peine de travailler à la maison de l'Éternel, de la bâtir, d'écouter et de craindre l'Éternel. Il vaut la peine, et nous avons d'autre part les ressources de sa grâce assurées, à commencer par sa présence constante. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Et ces mêmes paroles, nous les avons encore au début du chapitre 2. Et comme notre frère vient de nous le dire, ce sont ces paroles qui terminent l'évangile du roi lui-même. L'évangile qui nous présente le Seigneur dans son autorité. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Ayant le Seigneur avec nous, nous pouvons compter sur lui et notre travail alors sera certainement fructueux à sa gloire. Ce travail concernant sa maison.
Sans doute, continue ces réflexions par d'autres passages dont je citerai seulement un, et qui est justement caractéristique du témoignage des derniers jours. On a, il me semble que j'ai déjà dit cela peut-être ici, peu importe, on a souvent demandé à ces serviteurs du siècle dernier, ceux qui étaient autour d'eux, qui avaient de la foi, mais pas assez pour faire comme cela faisait, marcher sur la mer même sans une planche. Comme l'apôtre, dont on a dit, il s'est embarqué sur une parole divine. Voilà la foi. Tandis qu'un peu partout, et nous comprenons hélas trop bien cela, il nous faut une planche ou une petite barque ou un bateau très confortable pour faire la traversée. Tandis que si l'on est sur l'eau directement, il s'agit d'une dépendance directe et constante à l'égard de celui qui peut seul nous faire marcher sur les eaux. Nous avons des choses à apprendre, n'est-ce pas, chers amis? Non pas des vérités classables, mais des vérités morales, des vérités vivantes dans l'âme, celles qui font vivre et qui permettent de mourir à la gloire du Seigneur. Tous les enseignements ont pour objet, de la part du Seigneur, de nous amener à cela, à cet état d'âme qui trouve sa joie et sa force en Christ. Seulement, ce n'est pas fait une fois pour toutes. Et alors, on faisait donc autour d'eux à ces frères qui, au prix de beaucoup de larmes, rompu avec les milieux religieux où ils avaient vu, le jour, n'est-ce pas, au prix de ruptures douloureuses, mais appelés et marchant sans hésitation. Et sont dans les Écritures, ne partant pas avec une position a priori et un plan qui à tout prix étant conçu devait être réalisé, pas de plan du tout. On voit aujourd'hui, et dans l'histoire de six portes non christianies, vous avez tant quitté de personnes, on se fixe un but, et puis une fois le but fixé, comme dans une entreprise de construction, ou que sais-je, allez, à tout prix, on va mobiliser toutes les forces pour que le but soit atteint. Mais ce n'est pas le christianisme, là. Il n'y a rien à faire, rien à entreprendre, il n'y a qu'à lire, croire, faire après avoir cru, parce qu'on croit. Et avant de faire, être. Donc ces serviteurs, qui n'ont pas été toujours aidés autour d'eux par d'authentiques chrétiens qui n'avaient pas la même foi qu'eux, mais c'était le Seigneur qui possédait leur cœur. Alors, le témoignage a pris forme, qui s'est établi ici et là, et peu à peu dans le monde entier, des assemblées que le Seigneur lui-même formait ainsi, se servant, voulant bien se servir de serviteurs qui l'honoraient pour un travail aussi admirable que celui-là, des chrétiens autour d'eux se sont tout de même arrêtés et ont dû considérer, ils ne pouvaient pas ne pas considérer un état de choses qui venait de surgir au bout de 10 ou 20 ou 30 ans. C'était un fait historique. Et c'en est encore. Si on disait aux frères, certains de ceux qui les approchaient et qui avaient tout de même, qui se sentaient atteints par l'apparition de ce témoignage, évidemment signé de la main divine, il demandait aux frères, mais pourquoi tenez-vous tant donc à ce passage que vous citez dans vos écrits et dans vos conversations ou vos méditations, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux, nous sommes ici, n'est-ce pas, pourquoi vous attachez-vous tellement à ce passage? Pourquoi a-t-il pour vous tant de prix? Et pour nous, pareillement. S'il n'y avait pas ce passage, chers amis, eh bien, nous serions comme des bateaux sans boussole. Mais il y en a un, il est là. Et c'est ce passage qui a éclairé ces conducteurs qui n'avaient personne avant eux pour pouvoir les suivre. Et ils ont cherché à prendre le Seigneur au mot, dans l'intelligence spirituelle qu'ils l'ont fait. Et quand on leur posait cette question à ses frères, « Mais pourquoi tenez-vous tant à ce passage spécialement ?»« Ne voyez-vous pas, répondait-il, que ce privilège est d'une incomparable valeur, parce qu'il peut être réalisé dans les temps de plus grande ruine.
loin de nous une pensée quelconque de jugement et encore moins de mépris pour tant d'efforts sincèrement déployés pour la diffusion de la parole de Dieu et l'annonce de l'Évangile dans tant de milliers. Si nous n'étions pas de cœur avec ces chrétiens dont nous pouvons dire qu'ils ont une entière bonne volonté, si même nous oublions de prier pour eux, eh bien oui, nous serions des sectaires. Mais quand il nous arrive, comme je l'ai réalisé avec peine récemment, de voir ce qui mobilise ces actes, ces efforts, ces œuvres bonnes, parce que c'est le Christ qui est annoncé, et de lire ce que je vais essayer de rapporter encore de mémoire, la bénédiction du monde et la propagation d'Évangile dépendent de notre obéissance. On est consterné. C'est ramener à soi, même avec les sentiments de les meilleurs qu'un cœur désire, en tant que cœur désire être plein, c'est-à-dire la bonne volonté, nous l'avons dit, grave sur nous le caractère, ce caractère d'enfant d'obéissance. Mais c'est au fond faire dépendre de cette activité, de cette bonne volonté, la grâce du Seigneur qui, elle, nous le savons bien, est tout à fait indépendante et de nos bonnes volontés et de nos meilleurs sentiments. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même à l'œuvre. Et ces chers chrétiens, dont on peut admirer le dévouement, sans réserve, ce sont des sentiments humains que nous pouvons porter à l'égard de renoncements qui nous confondent, qui nous humilient, mais si tant ces chers chrétiens ramèneront à eux-mêmes, font dépendre d'eux-mêmes, de leur dévouement et de leur obéissance, le travail de la grâce, mes amis, c'est inverser les choses. C'est ne pas mettre les deux ensemble. C'est de ne pas de penser, d'oublier qu'il y en a un qui est prêché. Un Christ crucifié, oui. Et je m'arrête ici sur cette expression. N'avons-nous pas remarqué, mes chers amis, combien l'Évangile qui est ainsi prêché, diffusé dans le monde, nous devons en être reconnaissants, combien souvent cet Évangile s'arrête à la croix et ne va pas plus loin que la croix. Ah si. On va jusqu'à un Christ ressuscité. Parce que le passage est essentiel. Croyons en celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Celui qui a été livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Mais il y a un pas qui ne se franchit pas. Et c'est la prédication de l'Évangile de la gloire, la contemplation par la foi de celui à qui nous appartenons et de celui dont la gloire doit nous être précieuse avant tout. Voilà une pierre de touche. Mais la véritable pierre de touche, ce sont les mobiles secrets, finalement. Un acte de l'ennemi pour priver ses services de ce qui doit être l'essence même de la prédication, le but direct de tous ces efforts, amener les âmes à Christ pour que toutes ensemble, connaissant leurs privilèges, jouissant de la présence et de l'action du Seigneur dans l'Assemblée, puissent correspondre à ce qui s'est passé là. Oh, c'était pas une chose extraordinaire. Il y avait bien d'autres monuments qui se bâtissaient alors de par le monde. C'était le temps où les Grecs remplissaient et beaucoup d'autres remplissez le monde de ces choses sur lesquelles maintenant se penchent les archéologues. On découvre des cités magnifiques. Qu'est-ce que c'était donc que cette maison qui se bâtissait à Jérusalem? Aux yeux du monde, rien. Pour Dieu, c'était tout. Et c'était sa maison. Mes chers amis, nous ne désirons engager aucune controverse et nous souhaitons être privés dans nos esprits mêmes de tout ce qui pourrait porter du discrédit sur ce que des âmes pieuses et sincères s'efforcent de produire. Mais nous, et ici nous nous tournons vers ceux qui, comme nous, ont été nourris de la substantifique moelle. Nous nous tournons vers ceux qui ont reçu ce dépôt précieux. Ô Timothée, garde le bon dépôt. Il lui disait dans des temps où la maison à laquelle il avait consacré tous ses efforts, pour laquelle il avait finalement fait renoncement de lui-même, cette maison-là, elle était lézardée. On voyait apparaître les premiers signes. Quand on a comme mission de chercher les fissures et de se dire, tiens, mais d'où provient celle-ci? Mais y a-t-il là un fondement mal posé? Y a-t-il une poussée anormale? Oh, mes chers amis, on comprend un peu mieux ce que c'est que s'efforcer de discerner le travail de l'ennemi pour tâcher de ruiner l'assemblée de Dieu. L'apôtre le savait. Il se lèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer des disciples après eux. C'est l'ennemi du dedans. Et il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Quelle vigilance pour l'apôtre! Quelle mission il conférait, quel devoir il imposait au cœur de ceux qui avaient été les objets d'un enseignement patient de sa part. Eh bien, mes chers amis, nous qui connaissons la vérité établie depuis plus d'un siècle, j'entends établie, c'est-à-dire remise en lumière, c'est-à-dire présentée par la puissance de l'Esprit Saint, au milieu d'une confusion qui allait croissant et qui n'a pas cessé de croître. Nous qui avons le bénéfice d'un ministère de l'Esprit qui est merveilleux, d'une telle richesse que les âmes pieuses qui sont mises pour la première fois à son contact, au contact de ce ministère de l'Esprit tel que nous l'avons dans les écrits de ses frères, disent, mais les frères ignorent les richesses qui sont entre leurs mains. Nous avons, je le dis, l'intention de ceux qui, comme moi, ont eu le privilège de parents et de grands-parents chrétiens qui ont été élevés non pas seulement au doux son de l'Évangile, mais à qui on a présenté le chemin du Seigneur, le sentier de Dieu dans les temps difficiles. Eh bien, nous serions impardonnables et cela nous jugerait au jour du Christ si nous ne mettions pas nos cœurs à ce travail pour la maison de Dieu. C'est ce qu'ils avaient fait. Ils étaient montés sur la montagne, ils s'étaient rapprochés du Seigneur. La figure de la montagne, c'est le lieu où Dieu est plus proche. C'est le lieu où Abraham avait été convié à offrir Isaac. La montagne, c'est le lieu où notre Seigneur est monté pour prier pour nous, comme il le fit dans le moment où il avait engagé les disciples dans la nacelle. La montagne, c'est le lieu d'où il est parti, ayant mené dehors les disciples jusqu'à Béthanie, montagne des Oliviers, d'où les pieds saints du Seigneur ont quitté la terre pour y revenir dans un temps prochain, quand ils regarderont vers celui qu'ils ont percé et quand ils confesseront, revenant de tout leur cœur au Seigneur, quand ils diront « Nous avons péché, nous avons désobéi » et tu n'as pas pardonné, ce sera l'expérience qu'ils feront sous le coup des jugements de Dieu qui les atteindront quand Jacob recevra le double pour tous ses péchés. Tu n'as pas pardonné. Ils diront juste quand. Leur foi sera si faible que le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, reviendra, y aura-t-il de la foi sur la terre? Le cri des justes, oui. Mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Et sur les pieds de cette montagne d'où il a quitté la terre où il a été crucifié, sur cette même montagne, les pieds du Seigneur glorieux se tiendront. Montez dans la montagne et apportez du bois. Apportez du bois. Vous savez, quand on coupe du bois très chaud et préparez des matériaux pour la maison de Dieu, c'est le vrai moyen d'avoir nos âmes occupées du Seigneur. Et je le dis à ces chers jeunes amis vers qui va tout notre intérêt, vous avez à cœur l'Évangile et nous en sommes réjouis, mais que cela ne se sépare pas dans vos cœurs de ce qui est le vrai travail du Seigneur, mais que cela ne vous fasse pas oublier et que vos prières, vos soins, le sens, l'orientation même de vos exhortations et comme résultat, nous en serons tous heureux de voir ajouter les pierres à l'édifice, de voir ces âmes arrachées à la corruption de ce monde, s'attacher à celui qui est, lui, la pierre vivante de laquelle nous nous approchons, afin que la maison spirituelle, ce temple saint, par l'Esprit de Dieu, croisse. Que Dieu nous accorde, mes chers amis, de mettre nos cœurs à ces choses. Nos privilèges sont d'une telle portée que nous en sommes confondus si nous nous approchons humblement de la parole et de ce ministère de l'Esprit auquel je fais allusion. Qui ici me contredira? Nous ouvrons une page d'un de ces chrétiens. J'ai cité ce matin un extrait solennel pour nous d'un frère qui a été converti à l'âge de, je pense qu'il devait avoir 22 ou 23 ans, sur le champ de bataille de Waterloo. Il s'appelait Wigram. C'est extrêmement intéressant pour vous, mes chers amis. Le spectacle de cette désolation, et pourtant sa nation avait été la victorieuse, le spectacle de cette désolation, tout ce qui était pour lui parole de mort, l'a fait se jeter aux pieds du Seigneur à la suite de cette visite, et il a senti la grâce de Dieu descendre en lui, et il a passé par une vraie conversion. Eh bien, ouvrez quelques pages de ce cher serviteur de Dieu. On en avait donné des extraits, et dans les premières livraisons de l'écho du témoignage, on avait intitulé cela « Celestia ». C'est exact, c'était quelque chose du ciel qu'on avait là. Maintenant, plus modestement, nous appelons des glanures. Mais ayez cela, chers jeunes amis, comme livre de chevet. Ma mère m'a mis cela dans la vareuse quand je suis parti au front en 14. Elle n'avait rien pu trouver de mieux pour être un encouragement pour le cœur de son enfant. Eh bien, je vous en prie que cela soit l'un de vos livres de chevet et les pensées de M. Darby, et tant d'autres choses par lesquelles nous nous sentons à la fois liés de cœur avec ces chers serviteurs de Dieu dont nous devons honorer la mémoire. Et en même temps, comme tirés par l'action puissante de l'Esprit, vers celui qui remplissait leur cœur, qui mobilisait leurs affections et qui les faisait se vouer entièrement à son œuvre. Nos privilèges sont grands, chers amis, et je l'ajoute, chers jeunes amis, nous ne pouvons pas les méconnaître. mais nous avons à nous y attacher. Ceux qui ont déjà fourni une course, ceux qui en faiblesse ont-ils privilège de trouver de l'écho dans le cœur de leurs frères, dont le cœur des frères a été pour eux un encouragement dans les moments difficiles. C'est un échange. Le serviteur, il est servi par ceux en faveur de qui il exerce son service dans l'humilité et la confiance. Ce sont des choses magnifiques. Mais qui voudrait, mes chers amis, et ne pas connaître ces choses quand nous avons tous été enseignés à servir le Seigneur, fervent en esprit, servant le Seigneur. Quant à l'activité, pas paresseux, et nous le comprenons bien. Il ne s'agit pas de celle qui consiste à mettre de l'argent dans des bourses trouées, mais quant à cette activité que nos cœurs doivent connaître sous la direction de l'Esprit-Saint, et ce que nous trouverons dans le message suivant, ne craignez pas, les ennemis sont nombreux, ne craignez pas, l'opprobre du Christ est une réalité, mais ne craignez pas, je suis avec vous, ma parole et mon esprit demeurent avec vous. Bon courage donc, chers amis, et je le dis en toute effusion de cœur, bon courage donc, chers jeunes amis, mais que la gloire du Seigneur dans l'Assemblée vous anime dans tout ce que vous pensez devoir accomplir pour le Seigneur. Et puis, il y a pour chacun de nous l'exhortation du même apôtre ou même enfant, cher à son cœur, fait l'œuvre d'un évangéliste. C'est pour qui? Mais tout pour tous les croyants ou croyantes qui sont ici. Faire l'œuvre d'un évangéliste dans toutes les occasions que le Seigneur met sur notre chemin, pour que, montant dans la montagne, cherchant la sagesse et la force auprès de lui, nous soyons prêts à couper du bois, prêts à placer devant ses âmes Jésus le Sauveur, Jésus un Sauveur glorifié, Jésus notre espérance, Jésus autour de qui, ensemble, nous nous rassemblons, l'ayant là au milieu de nous, sur sa promesse, car le Nouveau Testament va plus loin que l'Ancien Testament, nous le comprenons bien. C'est dit, Seigneur, je suis avec vous, oui, tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Quand il dit, je vous prendrai dans la maison du Père, il ajoute, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Écho à notre mesure, oui, à notre petite mesure de ce qu'il dit à son Père dans le moment où, recevant tout de lui, il dit, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût au milieu de nous. Chacun de nous, nous sommes auprès de lui en attendant que nous les entourions sa personne glorieuse dans le ciel, sa demeure qu'il remplit de sa gloire.
Citer deux exemples, entre autres, de ceux que l'on pourrait citer nombreux, dont la vie de foi de Judas. Quant au degré de leur affection, de leur respect, de leur dévouement pour la maison de Dieu, et comment Dieu les a honorés, réalisant ce qu'il avait dit déjà, « Ceux qui m'honorent, je les honorerai. » Et le dévouement pour la maison de Dieu était la vraie pierre de touche des affections se trouvait engagé dans le cœur de ses serviteurs. Les affections se traduisaient tout naturellement vers la maison pour les soins de cette maison, l'édification, la restauration de cette maison. Mais je ne vais pas entrer dans le détail, je vais citer l'exemple d'un homme de Dieu qui s'appelle Jehoiada dans 2 Chroniques 24. Je m'excuse de cette petite interruption, mais je crois qu'elle mérite d'être citée dans le cadre de ce qui était devant nous et des enseignements et appels solennels que nous avons entendus. 2 Chroniques 24. Il a fait placer un coffre à côté de l'autel, on a recueilli de l'argent, et au verset 12, nous lisons: et le roi et Jehoiada le donnaient à ceux qui faisaient l'ouvrage du service de la maison de l'Éternel, et ceux-ci prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers, tailleurs de pierre, des charpentiers, soulignons ces expressions, pour restaurer la maison de l'Éternel. Et aussi des ouvriers en fer et en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Et puis, ceux qui faisaient l'ouvrage travaillèrent, et l'œuvre de restauration se fit par leurs moyens, et ils rétablirent la maison de Dieu en son état, et la consolidèrent. Puis, ils ne sont pas contentés de s'arrêter à mi-chemin, il est dit qu'ils ont achevé au verset 14. Alors voilà la récompense pour cet homme de Dieu qui n'a rien à voir avec la royauté. C'est un sacrificateur, Jehoiada. Verset 15, il est dit qu'il devint vieux, rassasié de jours et il mourut. Il était âgé de 130 ans quand il mourut. Et on l'enterra dans la ville de David avec les rois, car il avait fait du bien en Israël et pour Dieu et pour sa maison. Voilà cet homme de Dieu qui est honoré. Il est enterré avec les rois dans la ville de David. Il vit 130 ans. Et puis Dieu souligne qu'il avait fait du bien en Israël, et pour Dieu et pour sa maison, chose indissolublement associée. Citerai seulement aussi le cas d'Ézéchias. Il dit de lui, c'est trop long d'entrer dans les détails, mais on connaît aussi le zèle qu'il a eu pour ouvrir la maison de l'Éternel, pour la réparer, en réparer les ports, rétablir le service, tout ce qui constituait le service lié à la maison de Dieu. Puis il dit de lui, au verset 33 du chapitre 32, Ézéchias s'endormit avec ses pères, et on l'enterra à l'endroit le plus élevé des sépulcres des fils de David. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Et ce qui caractérise la vie de cet homme de Dieu, de ce roi pieux, et dès qu'il entre en scène tout jeune, c'est de s'occuper de la maison. Deux exemples remarquables. L'un, sacrificateur, est enterré avec les rois, et l'autre, un roi, il reçoit cet honneur supplémentaire d'être enterré à l'endroit le plus élevé où l'on enterrait les rois, pour montrer l'honneur que Dieu voulait, l'honneur dont il voulait que ce serviteur soit entouré. Deuxième exemple négatif, celui-là, et je m'arrêterai tout de suite, c'est celui de celui qui a précédé. Il s'appelle Akaz. Oui, c'est un exemple vraiment affligeant. Il a fermé, entre autres, la maison de Dieu. Eh bien, il est dit de lui, c'est une parole solennelle, et quel contraste, Akaz s'endormit avec ses pères, dernier verset du chapitre 28, et on l'enterra dans la ville de David, mais on ne le mit pas dans les sépulcres des rois d'Israël. Ceux qui m'honorent, je les honorerai. Les croyants fidèles, dont le cœur est engagé à l'égard des intérêts du Seigneur sur la terre, sa maison, l'assemblée, bien l'un reçoit l'intime honneur d'être enterré avec les rois, l'autre à l'endroit le plus élevé, mais un autre qui n'en a eu aucun souci, mais qui au contraire a maîtrisé ce que le Seigneur aimait sur la terre, n'a même pas le privilège d'être enterré là où son titre et sa fonction et son origine le destinaient.